Europe 1. Europe 1.
15h, 16h. Historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
Qui est véritablement Louise Labbé, la poétesse du XVIe siècle, que l'on surnomme parfois la Belle Cordière? Est-elle réellement une femme de lettres? Est-elle une courtisane, comme beaucoup l'ont prétendu? Y a-t-il méprise quant à la paternité de ses œuvres? Au sujet de Louise Labbé, la légende a souvent pris le pas sur la réalité et les récits romanesques sur les faits historiques. Il faut dire que son existence lointaine est rendue trouble par de nombreuses zones d'ombre que les archives ne parviennent pas toutes à combler. Mais il est une chose certaine. En 1555, dans la puissante ville de Lyon, l'ancienne capitale des Gaules, où convergent alors les riches marchands et les beaux esprits européens, un ouvrage littéraire paraît sobrement intitulé « Œuvre » et signé de Louise Labbé, lyonnaise. Qui est donc cette femme pour écrire des lignes jugées dignes d'être publiées? Et comment a-t-elle obtenu le privilège de voir ses œuvres ainsi éditées? Au temps de l'humanisme importé de l'Italie voisine, une place est peu à peu accordée aux femmes dans le paysage artistique, musical et littéraire. Et certaines voix que l'on qualifierait aujourd'hui de féministes s'élèvent sur le papier. Louise Labbé en est une. Dans l'unique ouvrage de la poétesse lyonnaise, on peut lire ces vers passionnés qui nourriront la légende d'une écrivaine aux mœurs légères.
Baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise.
Premier quatrain célèbre du sonnet 18 de Louise Labbé, il décrit des baisers enflammés qu'il est tentant de voir dessinés à un amant de la poétesse. Le plus grand plaisir qui soit après amour, c'est d'en parler, a en effet écrit Louise Labbé dans son débat de folie d'amour, l'un des autres textes figurant dans l'ouvrage. En réalité, rien ne prouve que l'autrice parle ici en son nom. Pour autant, les théories de l'universitaire française Mireille Guchon, qui suggère que les textes signés de la Lyonnaise seraient en fait l'œuvre d'un collectif d'hommes et que Louise Labbé ne serait qu'un prête-nom, semblent contredites par les recherches récentes. Selon sa consœur, Élise Reichenbach, maîtresse de conférences en littérature française de la Renaissance et qui est donc notre invitée cet après-midi, l'idée que Louise Labbé ne serait qu'une créature de papier ou tout simplement une imposture est loin d'être nouvelle. Le milieu social de l'écrivaine, tout comme son statut de femme, ont nourri au fil du temps les suspicions à son égard. Et c'est aussi à cette part de doute que Louise Labbé doit en partie sa notoriété et sa légende. Si une chercheuse remet aujourd'hui en question le fait que Louise Labbé a réellement été capable d'écrire, c'est principalement lié au fait qu'elle est une femme. La date exacte de sa naissance est inconnue, mais on la situe généralement entre 1516 et 1524, autrement dit au début du règne de François Ier et à l'aube de la Renaissance française. Louise Labbé le revendique. Elle est lyonnaise. Et Lyon, je vous le disais, est au XVIe siècle une ville qui rayonne et concentre une population venue de toute l'Europe. C'est aussi une cité où l'imprimerie se développe alors considérablement et où se croisent les plus belles plumes de l'époque. La mode est alors aux vers inspirés de Pétrarque, poète florentin du XIVe siècle et figure du courant humaniste. Loué par Clément Marot, celui que l'on surnomme de son temps le prince des poètes françois, Lyon attire également Rabelais, qui publie Pantagruel en 1532, et Gargantua, deux années plus tard. À Lyon comme ailleurs, cependant, pour pouvoir entamer une carrière littéraire, encore faut-il savoir lire et écrire. Et c'est là que le bât blesse. Louise Labbé est fille de Cordier. Elle sera bientôt épouse de Cordier. Et l'on présume dès lors qu'elle n'a pas reçu l'éducation nécessaire à toute femme de lettres. Son père, Pierre Charlie, dit Labbé, fabrique et fournit la ville en cordes pour lui permettre de mener son commerce sur les eaux du Rhône et de la Saône. C'est une activité fructueuse qui fait de lui certes un notable, mais ne présage pas de la bonne éducation de sa famille. Le père de Louise Labbé et son mari, Edmond Perrin, qu'elle épouse aux alentours de 1545, sont même tous deux probablement illettrés. Alors pourquoi et comment Louise Labbé aurait-elle pu apprendre à lire et à écrire en français comme en italien? Plusieurs hypothèses ont été émises. L'une suggère par exemple que les enfants de Pierre Charly auraient pu avoir un précepteur. Une autre soutient que Louise Labbé aurait peut-être reçu son éducation dans le couvent de la Déserte, situé dans l'actuel quartier lyonnais de la Croix-Rousse, auprès d'une religieuse qui aurait remarqué les prédispositions de la jeune fille. Alors, la femme de lettres et la cordière ne font-elles qu'une ? Évoluant dans un milieu de marchands, Louise Labbé elle-même est régulièrement nommée cordière dans les documents d'archives qui ont été retrouvés. Et il est avéré qu'elle prenait part au commerce de son mari en véritable femme d'affaires et faisait même des placements financiers en son propre nom. Artisanat ne rime donc pas avec pauvreté, au contraire. Et un événement historique prouve même la qualité de la famille de Pierre Charly au milieu du XVIe siècle. Lorsque le nouveau roi Henri II, succédant à son père François Ier, entre solennellement dans Lyon avec Catherine de Médicis en 1548, l'un des frères de Louise Labbé participe au combat de gladiateurs organisé pour fêter l'événement. L'ancienne capitale des Gaules, qui accueille son nouveau souverain dans des décors somptueux inspirés de l'Antiquité, multiplie ainsi les spectacles en son honneur et François Charly en est l'un des participants triés sur le volet. Il semble que Louise Labbé ne gravite donc pas si loin des hautes sphères de la ville. Mais plus important encore, elle ne demeure pas loin des rues où s'écrivent certaines des plus glorieuses pages de l'histoire de Lyon, celles du quartier des imprimeurs. Après son mariage, la poétesse a en effet quitté la rue de l'Arbre Sec, où elle vivait avec son père, pour s'installer avec son époux Edmond Perrin, rue Notre-Dame de Confort, un peu plus bas sur la presqu'île, entre l'actuelle place des Jacobins et l'Hôtel-Dieu. Dans son nouveau lieu de résidence, elle ne se trouve désormais plus qu'à quelques pas de la rue Mercière, de ses ateliers où les presses à caractère mobile fonctionnent à plein régime et des boutiques des nombreux libraires lyonnais. Cette proximité a certainement facilité la publication de ses œuvres. Louise Labbé s'est sans doute promenée son manuscrit à la main dans ce quartier, au cœur de la cité où se croisent alors des grands noms de la littérature renaissance comme le renommé Rabelais ou encore les poètes français Maurice Sève et Charles Fontaine. Aux côtés des auteurs, les imprimeurs y ont aussi gravé leurs noms dans l'histoire de la littérature française. Claude Nourry a publié à Lyon la première version du Pantagruel de Rabelais quelques années plus tôt. François Juste, Étienne Dolet et l'Allemand Sébastien Griff y ont tous trois imprimé des livres de Rabelais et de Marot. Et en 1555, c'est Jean de Tourne qui édite l'ouvrage de Louise Labbé. Un imprimeur qui, sentant le vent tourner et le beau siècle s'ouvrir aux dames, a choisi de donner leur chance aux femmes de lettres. Au moment de la publication de ses œuvres, plusieurs éléments suggèrent que Louise Labbé est déjà connue. Selon notre invitée, la spécialiste Élise Reichenbach, le terme d'œuvre, employé seul et au pluriel en guise de titre d'un ouvrage, est encore rare à l'époque et signe de la grandeur de l'auteur. Plus évocateur encore, Louise Labbé a fait une demande en son nom pour obtenir un privilège du roi, c'est-à-dire une protection qui garantit alors à l'auteur, au libraire ou à l'imprimeur, de conserver le monopole de publication de l'ouvrage concerné. Louise Labbé a financé et obtenu ce privilège le 13 mars 1555 et il en est fait mention au début du livre. À la suite des textes de la poétesse sont également joints les écrits de divers poètes, des hommages de la part de plusieurs écrivains qui prouvent la notoriété de Louise Labbé. Des poèmes composés en français, en italien ou même en grec, dont on ne connaît pas avec exactitude les auteurs, mais qui chantent tous les louanges de la femme de lettres. L'un d'eux fait l'éloge de sa beauté et de ses talents musicaux dans une langue encore très compréhensible aujourd'hui. Louise, étant gracieuse, étant belle, Louise, à tout étant bien avenante, Louise, à l'œil de si vive étincelle, Louise, à face au corps tant convenante, de si beau port, si belle et séduisante, Louise, à voix que la musique avoue, Louise, à main qui tant bien au luth joue, Louise, à tant ce qu'en tout on prise, que je ne puis que Louise ne loue, et si ne puis assez louer Louise. Dans un registre tout aussi flatteur, écoutez ce madrigal italien traduit ici en français. Ainsi mon cœur pour vous, madame, a tant brûlé en ce premier jour où je vous ai contemplé qu'aussitôt j'ai été vraiment persuadé que ce feu ne pourrait plus jamais augmenter. Mais en vous, la beauté augmentant d'heure en heure, je sens venir en moi encore plus d'ardeur. Si elle continue à brûler tant soit peu, j'en serai tôt réduit à n'être plus que feu. écrit par des hommes, ces hommages ne prouvent pas seulement avec lyrisme la réputation qu'avait déjà acquise Louise l'Abbé en 1555. Ils font aussi office de caution devant la prémunir des attaques et des suspicions, celles que l'on réserve aux femmes qui osent se dévoiler dans l'espace public. La belle Cordière semble d'ailleurs s'en excuser par avance auprès de ses lectrices dans les premiers vers de sa troisième élégie.
Quand vous lirez aux dames lyonnoises à ces miens écrits, pleins d'amoureuses noises, que mes regrets, ennuis, dépit et larmes m'auraient chanté en pitoyable carme, ne veuillez pas condamner ma simplesse et jeune erreur de ma folle jeunesse. Si cette erreur, mais qui, dessous les cieux, se peut vanter de n'être vicieux ?
Louise l'Abbé ne craint pas d'exposer ses vers amoureux et elle appelle la noble Clémence de Bourges, à qui elle dédie son ouvrage ainsi que toutes les autres femmes qui la liront, à suivre son exemple.
Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines, il me semble que celles qui ont la commodité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois tant désirée à apprendre et montrer aux hommes le tort qu'ils nous font en nous privant du bien et de l'honneur qui nous en pouvait venir.
De cette épître à Clémence de Bourges, Louise l'Abbé feint la modestie que l'on attend d'une plume féminine pour mieux prier ces dames d'oser concurrencer les hommes dans les domaines intellectuels et de ne pas s'astreindre aux tâches traditionnellement réservées à leur sexe.
Ayant passé partie de ma jeunesse à l'exercice de la musique, et ce qui m'a resté de temps l'ayant trouvé court pour la rudesse de mon entendement, et ne pouvant de moi-même satisfaire au bon vouloir que je porte à notre sexe, de le voir, non en beauté seulement, mais en science et vertu passer ou égaler les hommes. Je ne puis faire autre chose que prier les vertueuses dames d'élever un peu leurs esprits par-dessus leurs quenouilles et fuseaux.
Une telle audace de la part des femmes ne ferait, selon elles, qu'accroître l'application des hommes.
Outre la réputation que notre sexe en recevra, nous aurons valu au public que les hommes mettront plus de peine et d'études aux sciences vertueuses, de peur qu'ils n'aient honte de voir précéder celles desquelles ils ont prétendu être toujours supérieurs quasi en tout.
Dans l'imprimerie de Jean de Tournes, alors située rue Raisin à Lyon et reconnaissable à son enseigne représentant deux vipères qui se mordent la queue, ces quelques pages de Louise l'Abbé seront bientôt remises sous presse. En 1556, il réédite en effet ses œuvres légèrement corrigées, ce qui laisse supposer que la précédente édition s'est bien vendue. Bien qu'elle ne soit pas la première femme à être publiée dans le royaume de France, un tel succès ne peut évidemment qu'augmenter le mystère qui entoure cette belle Cordière lettrée. Avant elle, d'autres femmes ont marqué la littérature française de leur empreinte. Christine de Pizan, au tournant du XVe siècle, déjà vivait de sa plume. D'origine italienne, elle était entre autres philosophe et poétesse et signait des textes en français sur la condition des femmes au Moyen-Âge, notamment des veuves. C'est dans la lignée de cette pionnière de la cause féministe, pourrait-on dire, que s'inscrit Louise l'Abbé. Christine de Pizan n'est pas la seule à s'être saisie ainsi de sa plume en dépit du regard des autres. Marguerite de Navarre, née Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier, a également publié quelques années avant Louise l'Abbé plusieurs ouvrages, dont un livre d'abord condamné par la faculté de théologie de Paris, intitulé « Le miroir de l'âme pécheresse », paru en 1531. 2 ans avant sa mort, en 1547, elle a aussi fait publier par Jean de Tournes un recueil de ses œuvres poétiques, ayant pour titre « Les Marguerites de la Marguerite des Princesses ». Mais, contrairement à Louise l'Abbé, la reine Marguerite de Navarre bénéficia longtemps d'un soutien et d'une protection de taille en la personne du roi de France, son propre frère. L'œuvre de Louise l'Abbé apparaît, quant à elle, d'autant plus remarquable que rien ne prédestinait une Cordière à écrire, ça vous l'avez compris. Le mythe de la belle Cordière, justement, que l'on associe traditionnellement à l'image d'une courtisane, est né en partie de la teneur de ses textes. Outre les 24 poèmes hommages qui lui sont adressés, dont je vous ai déjà parlé, l'ouvrage de Louise l'Abbé se divise ainsi en 3 parties. Un discours en prose intitulé « Débat de folie et d'amour », suivi de 3 élégies, ces longues complaintes poétiques en vers, et enfin de 24 sonnets composés en français ou en italien. 24 poèmes courts et enflammés qui ont beaucoup joué dans la réputation sulfureuse de Louise l'Abbé. Vous vous rappelez les quelques vers du plus tôt. En voici un autre exemple, le premier quatrain du sonnet 3 cette fois.
Depuis qu'amour cruel empoisonna premièrement de son feu ma poitrine, toujours brûlée de sa fureur divine, qui un seul jour mon cœur n'abandonna.
Les fameux premiers vers du sonnet 7 ne sont pas non plus étrangers aux fantasmes que suscite le nom de Louise Labbé.
Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est est trop molle, est trop dure, j'ai grand ennui entremêlé de joie.
Ni le premier quatrain de son 23e sonnet, dans lequel on aimerait lire une confession de la poétesse.
Ne reprenez, dame, si j'ai aimé, si j'ai senti 1000 torches ardentes, 1000 travaux, 1000 douleurs mordantes, si en pleurant j'ai mon temps consumé, las, que mon nom n'en soit pas par vous blâmé.
Tirer des conclusions du contenu de ces poèmes reviendrait toutefois à oublier que le sujet « je » d'un texte poétique ne désigne pas nécessairement son auteur. Le lyrisme de Louise Labbé et le contenu de ses textes ne prouvent en rien l'existence réelle de tel ou tel amant, bien que son dialogue poétique avec son contemporain Olivier de Magny a pu ou a fait supposer à certains qu'ils entretenaient une relation, voire même qu'Olivier de Magny aurait signé certains des vers attribués à Louise Labbé. Un argument parmi d'autres pour discréditer la poétesse dont même les éditeurs ont douté du réel talent à travers les siècles. Au XIXe siècle notamment, cette suspicion quasi systématique que nourrissent les hommes à l'égard des femmes de lettres n'épargne ni les cordières ni les reines, puisque Marguerite de Navarre en a fait aussi les frais. L'éditeur Prosper Blanchemain, qui republie aussi en 1875 les œuvres complètes de Louise Labbé, ne doute pas que la sœur de François Ier ait écrit elle-même ses vers, les jugeant, je cite, « assez médiocres pour cela ». Quant à la belle Cordière, il ne l'imagine pas avoir signé seul ses poèmes. Il voit dans les quatrains du sonnet 2 de Louise Labbé, commençant par « aux beaux yeux bruns, aux regards détournés » et identique à ceux d'Olivier de Magny, la seule main du poète est justement la preuve qu'ils étaient amants. Cette légende coriace d'une cordière lettrée aux mœurs légères tend parfois à faire oublier la véritable modernité et la qualité des textes de Louise Labbé. Au-delà des sonnets qui sont plus dans l'air du temps car il s'agit de la nouvelle forme poétique à la mode depuis 1530 et même des élégies qui s'inspirent de la littérature antique et sont au goût de l'époque, son débat de folie et d'amour véhicule les valeurs humanistes de la Renaissance. Plus pointu et exigeant, ce texte savant teinté d'humour retient d'ailleurs davantage l'attention des lecteurs au XVIe siècle. Divisé en 5 discours, il décrit de façon allégorique le conflit entre passion et désir, en imaginant une dispute entre les dieux folie et amour, puis la défense de l'un et de l'autre auprès de Jupiter par Mercure et Apollon. C'est folie qui, dans le texte, rend le jeune Cupidon aveugle pour se venger de la flèche qu'il a tenté de lui décocher, puis lui bande les yeux. « Folie bande amour et lui met des ailes », écrit Louise Labbé. À l'issue des 2 plaidoiries divines, Jupiter rend son jugement sous la plume de la poétesse. Il demande à Folie et Amour de vivre aimablement ensemble et guidera Folie l'aveugle Amour et le conduira partout où bon lui semblera, conclut-il. Cette réflexion fine de Louise Labbé sur la nature de l'amour, qui prône par ailleurs une liberté chère à l'humanisme, demeure moins connue de nos jours, mais élève pourtant la poétesse au rang de figure majeure de la littérature renaissance. Louise Labbé s'inscrit dans une époque littéraire et un âge d'or lyonnais qui déclineront en même temps qu'elle, à mesure que la réforme protestante et le conflit avec l'Église catholique diviseront le royaume de France et que les épidémies de peste endeuilleront les villes. Quand la première guerre de religion éclate en 1562 sous la régence de Catherine de Médicis, Lyon est une ville majoritairement protestante. La cité n'est pas épargnée par les violences, mais on ignore où se trouve alors Louise Labbé. Peut-être s'est-elle réfugiée dans l'une des propriétés qu'elle a acquises aux alentours de Lyon. Le 28 avril 1565, en revanche, c'est dans la maison de son ami florentin Tommaso Fortini, un riche banquier de la ville, qu'on a également supposé d'être son amant, que Louise Labbé signe son testament. La poétesse côtoyait dans son quartier de la rue Notre-Dame de Confort une large communauté italienne venue de Florence qui se réunissait à l'église Notre-Dame de Confort. Ses liens étroits l'ont sans doute aidé aussi dans la publication de ses œuvres. Quand elle disparaît, Louise Labbé est certainement veuve. On ignore si elle a autrefois eu des enfants, car ses héritiers universels sont ses 2 neveux. Contrairement à sa date de naissance, celle de son décès est connue. La poétesse meurt en février 1566, puis est inhumée à Parcieux, au nord de Lyon, où elle possédait une résidence. Au siècle suivant, sa poésie sera relativement oubliée, puis son œuvre peu à peu rééditée au XVIIIe et XIXe siècle. Si son surnom de Belcordière sera progressivement utilisé, puis effacé des pages de titres de ses rééditions, il ne disparaîtra jamais vraiment des mémoires. Au sujet de Louise Labbé, la légende se confond toujours un peu avec l'histoire. Ses œuvres complètes ont fait leur entrée dans la bibliothèque de la Pléiade en 2021, sous la direction de Mireille Huchon, plus de 4 siècles et demi après leur première édition. Preuve, s'il en fallait une, que Louise Labbé fait définitivement partie du patrimoine littéraire français.